Hello.
Hola.
Hola.
Ça va?
Ouais, toi?
Ça va?
Bon, là, faut qu'on s'y remette. Hein.
Ouais.
Épisode 4.
On en était là. On venait de faire deux épisodes sur le travail, la démocratie dans le travail et l'autogestion. On avait commencé à fouiller ces idées d'utopie et de partage du pouvoir. Et en même temps, dans les médias, le sujet des municipales commençait à prendre de l'ampleur. On s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté. Parce qu'au fond, l'utopie qui nous concerne le plus, la toute première, n'est-elle pas celle de l'espace qu'on habite? En ce qui nous concerne, c'est la ville. Alors, on a commencé à poser la question autour de nous. C'est quoi pour vous la ville idéale?
Ma ville idéale, ce serait une ville de taille moyenne, pas loin de la mer.
Je peux faire les quatre coins de la ville assez facilement en transport.
J'imagine des bâtiments pas trop élevés, que tout ne soit pas centralisé.
Le stationnement serait gratuit.
J'aurais pas à réfléchir pour les transports et pas être coincé dans le métro en heure de pointe.
Les agressions dans la rue n'existent pas.
Elle est autonome avant tout. Puis elle est diversifiée, adaptée à tout le monde. Coloré.
C'est une ville qui donne vraiment de la place aux enfants et qui leur permet de grandir et d'exister dans de bonnes conditions.
Mais surtout lente. Elle prend son temps et elle ne va pas trop vite.
Les habitants ont tout presque à proximité. Des bars, un accès facile à la culture, au sport très important, à la santé, à l'éducation.
Des lieux communs, collectifs.
Des espaces verts, des zones de rencontre.
Pour tisser le lien au niveau intergénérationnel jusqu'à la construction d'habitations collectives, entre guillemets.
Et enfin, je dirais une ville avec une identité forte. C'est-à-dire, je peux dire, ma ville, elle est mieux que la ville d'à côté.
Une ville créative aussi. Une putain de ville créative.
Ah, en soi, c'est pas si étonnant que ça, mais ce qui revient beaucoup, c'est l'idée de proximité, l'idée de créer du lien social avec son voisinage, avec les gens qu'il y a autour, de pouvoir aussi avoir des endroits de nature. Mais c'est quand même beaucoup cette idée de lien et de proximité. Je pense que c'est pas mal lié au fait aussi où on a des villes de plus en plus grandes et on est de plus en plus loin de nos centres d'intérêt, quoi.
Ouais, mais justement, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de prise là-dessus, tu vois, sur comment on fabrique la ville autour de nous.
Ouais, c'est vrai. C'est pensé par qui et pour qui. Il y a plein de personnes qui ne sont pas incluses dans la ville. Hein. Là, il y a quelqu'un qui parlait des enfants, mais c'est aussi le cas pour les personnes non-valides, pour les femmes, les minorités de genre, pour les personnes âgées aussi.
Puis on voit quand même genre énormément de travaux tout le temps autour de nous, de constructions récentes. J'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas. Mais en vrai, on ne sait jamais vraiment à quel besoin ça répond, qui a décidé, pourquoi ça se fait, quoi.
Alors même qu'on sait bien qu'à l'heure du changement climatique, on aurait tout intérêt à désimperméabiliser un peu les villes et qu'en plus de ça, il y a quand même énormément de logements vides en France. Enfin, je crois que c'est 3 millions de logements qui sont vacants, donc qui sont inhabités. C'est énorme. Et donc, c'est à peu près 10% du parc immobilier. Et il y a aussi 10% qui sont des résidences secondaires. Donc, ça fait 20% des logements qui sont quasiment ou pas du tout habités à l'année, quoi.
On construit, on détruit, on étend la ville. En France, chaque année, ce sont entre 20 000 et 30 000 hectares d'espaces naturels et agricoles qui disparaissent. La ville est un espace de décision, de pouvoir, d'arbitrage et de conflit. Mais souvent, on a l'impression d'être en dehors de ces prises de décision, de ne pas avoir notre mot à dire sur les transformations de nos lieux de vie. Alors on a voulu comprendre, qui fabrique la ville aujourd'hui et à qui profite-t-elle vraiment ?
Aujourd'hui, dans les villes dans lesquelles nous habitons, notamment sous nos latitudes en France, hein, globalement, le pouvoir des habitants et des habitantes sur la production de l'espace, il est, en tout cas pour les classes populaires et les classes moyennes, relativement faible.
Mathieu Adam, chercheur en géographie au CNRS.
C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez aller, si vous voulez, donner votre avis sur le nom du boulodrome, mais la décision, effectivement, de quand, où et pourquoi on va construire un nouvel espace public, un nouveau périphérique, une nouvelle autoroute, pour prendre un exemple qui n'est pas urbain, mais qui est toutefois selon les mêmes logiques, ça, globalement, ça se décide plutôt dans une bonne entente, hein, qui est aujourd'hui le néolibéralisme, c'est aussi l'État et le marché, main dans la main. Ce sont les collectivités territoriales et l'État qui se mettent au service des marchés. Et donc, on va retrouver tout un tas d'acteurs qui vont avoir une influence à différents endroits.
Les nouveaux sauveurs.
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 Les nouveaux
Mais du coup, on constate qu'il y a une bonne entente entre les collectivités territoriales et les acteurs du privé, du bâtiment, etc., pour un peu construire et envisager la morphologie de la ville. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment un problème si l'objectif, c'est une ville qui soit plus écologique ? Parce que c'est ce qui est montré, en fait, depuis une vingtaine d'années. C'est, l'idée, ce serait d'aller vers une ville plus durable, qui soit mixte socialement, où les habitants seraient concertés pour donner leur avis sur les projets urbains et où on aurait des meilleurs matériaux biosourcés pour construire nos habitats, quoi.
Oui, après, je trouve, moi, ça dépend vraiment de ce que tu mets derrière le mot durable, parce que ça peut être parfois du gros bullshit. Parfois, c'est juste des bâtiments qui se ressemblent tous avec 3-4 arbres plantés devant.
Genre les éco-quartiers.
Ouais, éco-quartiers, éco-cités.
Oui, puis je comprends pas pourquoi on continue de faire du neuf, en fait. On pourrait déjà commencer par rénover les passoires thermiques. Enfin, on continue de s'acharner à bétonner des terres agricoles pour faire quelque chose qui serait plus propre, au lieu de s'attaquer à ce qui existe déjà.
Oui, puis quand on voit des villes, par exemple, de la périphérie de la banlieue parisienne, genre Pantin ou Saint-Ouen, bah, on a aussi l'impression que le label durable sert avant tout à gentrifier la ville. On va vendre du bois, du vélo, des pistes cyclables. Et 2 ans après, les populations qui habitent là depuis belle lurette, elles sont plus capables de se loger parce que les prix, ils ont trop augmenté.
En fait, quand on parle de ville durable et tout, on se dit forcément que c'est enviable. C'est quelque chose vers lequel on veut aller, avec lequel on peut être que d'accord. Mais c'est vraiment plus compliqué que ça. Hein.
Historiquement et aujourd'hui, finalement, la ville durable est certes un mieux par rapport à une ville capitaliste qui ne prend pas du tout en compte la question écologique. Mais globalement, c'est une écologie capitaliste. J'ai publié en 2024 un ouvrage qui s'appelle « Contre la ville durable », qui est sous-titré « Une écologie sans transition ». Et en fait, finalement, le sous-titre répond un peu à la problématique de savoir pourquoi on peut être contre la ville durable. En disant, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut être contre ce modèle-là qui, effectivement, prétend intégrer les inégalités sociales, la question écologique et puis aussi la question de la répartition du pouvoir dans la production urbaine. Tout ça a l'air absolument formidable. Si vous êtes contre la mixité sociale, vous êtes probablement d'extrême droite. Si vous êtes contre l'écologie, c'est que vous voulez tuer des ours blancs. Et puis, si vous critiquez la participation habitante, c'est sans doute que vous êtes plutôt contre la démocratie. Pour mobiliser contre un projet d'éco-quartier ou contre la ville durable, bah, il faut bien être capable d'expliquer quel peut être le problème.
La ville durable, c'est l'application à nos quartiers d'une idée qu'on nous sert à toutes les sauces depuis 30 ans. Celle du développement durable, qui induit que l'on peut continuer à se développer, produire et consommer plus, tout en protégeant la planète et en étant socialement juste. Appliqué à la ville et à l'aménagement du territoire, ça donne des quartiers dits verts qui servent surtout à attirer des investisseurs et des populations plus fortunées.
En résumé, le développement durable, c'est une écologie capitaliste. Ça n'a jamais rien été d'autre. Il n'y a jamais eu de développement durable acapitaliste. Les formes anticapitalistes d'écologie, globalement, elles rompent assez immédiatement avec la notion de croissance et elles rompent immédiatement, évidemment, du coup, avec la notion de développement. Donc, schématiquement, le développement durable tel qu'il s'est imposé, c'est originalement une idéologie social-démocrate. C'est-à-dire, techniquement, c'est dire il faut réguler la croissance en y intégrant les problématiques écologiques et les problématiques sociales pour permettre de produire dans de meilleures conditions, en gros, produire mieux pour produire plus longtemps. Et le développement durable, dans sa trajectoire, il va croiser un autre gros mouvement d'évolution du capitalisme, qui est ce qu'on a appelé la période néolibérale, hein, donc au moment où, en gros, le capitalisme dominant devient un capitalisme qui s'appuie sur la notion de compétition. Le néolibéralisme va devenir hégémonique, globalement, au milieu des années 80, dans notamment les pays occidentaux, et puis très très vite aussi, dans tout un tas de pays des Suds. Et il va y avoir le passage donc, de ce développement durable social-démocrate à un développement durable néolibéral qui se caractérise par le fait de dire « mais tiens, c'est génial, ces questions de réduction des inégalités ou ces questions de réduction des impacts environnementaux, en fait, ça va permettre de créer des nouveaux marchés. » Et ça, on va le retrouver effectivement à la fois dans la concurrence que peuvent se livrer des villes, hein, avoir des éco-quartiers, avoir des réseaux express vélo, bah, ça va pouvoir être des arguments qu'on va mettre en avant pour essayer de convaincre des investisseurs d'acheter des immeubles sur le territoire ou pour essayer de convaincre des populations riches de s'installer.
Pour analyser ce qui se joue derrière les projets urbains, il faut revenir à la manière dont on fabrique l'espace. Le philosophe Henri Lefebvre explique que l'organisation de l'espace qui nous entoure n'est pas neutre, mais est le produit de choix politiques. La ville, c'est la matérialisation physique de ces rapports de force. Et le système capitaliste produit lui-même un certain type d'espace. Un espace organisé pour circuler et optimisé pour produire et consommer. Dans la pratique, l'aménagement du territoire est le résultat d'une intrication étroite entre des intérêts publics et privés. D'un côté, les élus ont le pouvoir de décider où l'on construit, mais ils n'ont pas nécessairement l'argent pour financer les parcs ou les routes. De l'autre, les géants du bâtiment, comme Bouygues ou Vinci, possèdent ce capital économique, mais ont besoin du feu vert de la mairie et de labels écolo qui deviennent des arguments commerciaux. La ville durable devient alors un produit financier.
En fait, il y a des choses qui changent. Les bâtiments sont souvent mieux isolés. On va réduire un peu la place de la voiture. On va chauffer avec des modes de chauffage un peu moins nocifs. On va avoir souvent des matériaux qui vont être dans leur empreinte environnementale un peu meilleure que ce qu'on faisait précédemment. Donc, il y a quand même, globalement, sur notamment la qualité constructive, etc., plutôt une amélioration. Ça n'empêche pas un certain nombre de paradoxes. Ces paradoxes, ils peuvent être dans le fait que, notamment, on continue de construire sur des terres agricoles, on continue de construire sur des friches industrielles, alors qu'il y aurait un intérêt très fort aujourd'hui, non pas seulement à cesser d'artificialiser, mais à désartificialiser, et en particulier en ville, et en particulier dans les quartiers populaires, où globalement, souvent, il y a quand même beaucoup, beaucoup de béton, et donc, dans les conditions, notamment de dérèglement climatique actuel, si on veut survivre aux canicules, il va falloir péter du béton pour mettre des arbres.
Mais au-delà de la performance technique des bâtiments, cette ville dite durable dessine surtout un certain modèle de société. Qu'il s'agisse de nouveaux écoquartiers ou de rénovations urbaines, l'aménagement est désormais pensé à l'échelle individuelle. C'est la mise en pratique du logiciel néolibéral. L'écologie n'est plus une organisation collective, elle devient une affaire de comportement personnel. On attend de l'habitant qu'il gère seul sa transition écologique en adoptant des bonnes pratiques de consommation. Le problème, c'est que ce modèle repose sur un usager imaginaire, une sorte de norme universelle que l'on suppose neutre. Mais en réalité, cette figure centrale qui sert de base à tous les projets urbains est très loin de représenter la diversité de la population.
Ce modèle universel, il se trouve que c'est généralement un homme, plutôt un homme valide, plutôt un homme qui va être dans un foyer dans lequel les adultes vont aller travailler, plutôt quelqu'un qui va avoir les moyens de modifier sa consommation alimentaire pour acheter bio, et puis d'acheter un vélo cargo pour emmener ses enfants à l'école, en plus du SUV qui sert le week-end. On peut prendre des exemples sur pourquoi cette norme qui a l'air neutre ne l'est pas. Si vous prenez la question du chauffage, globalement, une personne valide qui va quitter son logement pour aller travailler, elle va avoir besoin de chauffer moins qu'une personne handicapée qui va rester chez elle toute la journée, qu'une personne âgée qui a besoin d'une température un peu plus élevée parce qu'elle est moins mobile. Et globalement, ça, ce n'est pas une question de responsabilisation individuelle. Ça, c'est une question qui découle directement des conditions matérielles d'existence des personnes.
Cette norme universelle ignore aussi tout le travail domestique qui repose encore majoritairement sur les femmes. Entre la crèche, les courses et le travail, leurs déplacements sont fragmentés et complexes. Ils ne rentrent donc pas dans les cases de cet urbanisme qui privilégie les trajets simples et linéaires. Et c'est la même impasse pour les classes populaires. On demande aux habitants de devenir des éco-citoyens modèles, alors qu'ils sont souvent locataires de passoires thermiques ou exclus des aides à l'achat pour les vélos cargo. En transformant l'écologie en une simple question de bonnes pratiques individuelles, on finit par culpabiliser ceux qui ont le moins de prise sur leur mode de vie.
Qui produit et qui pense la question de la ville? Globalement, les villes aujourd'hui, elles sont conçues par des hommes. C'est quand même une réalité, toujours, hein, si on regarde qui sont les élus, mais aussi qui sont les fonctionnaires territoriaux, mais qui sont plus souvent encore les architectes, les promoteurs, etc. Ce sont très souvent des hommes, et ce sont systématiquement des cadres, c'est-à-dire des hommes ingénieurs, des hommes sortis de formation de Sciences Po, des économistes, etc.
Certes, ceux qui conçoivent la ville sont majoritairement des hommes et des cadres sup. Mais dans le discours de la ville durable, il y a une promesse qui revient, c'est celle de la participation citoyenne. L'idée, c'est qu'on ne construit plus la ville d'en haut, de manière autoritaire, mais qu'on invite enfin les habitants à prendre part aux décisions. On vend une démocratie locale renouvelée, plus horizontale, où le citoyen deviendrait l'architecte de son propre quotidien. Mais dans la pratique, pour Mathieu Adam, cette volonté d'inclure tout le monde se heurte à une réalité beaucoup plus rigide.
Partager le pouvoir, pas grand monde en a envie. Et notamment les élus, ils ont été élus pour avoir le pouvoir, ils n'ont pas forcément très envie de s'en défaire. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va organiser la participation de manière à ce qu'elle soit conforme aux obligations légales, bien souvent, ou à peine supérieure, mais que globalement, ça ne change pas grand-chose. Donc, dans le meilleur des cas, on va faire des budgets participatifs. Les habitants du quartier HLM vont avoir 10 000 euros par an pour éventuellement faire mettre des fresques, mais jamais assez pour rénover énergétiquement leur logement. Et puis, bien souvent, on va avoir des discussions de concertation sur des petits sujets, en fait. Des petits sujets qui vont être le nom de la rue, qui vont être le type de jeu pour enfants qu'on va mettre dans le parc, mais jamais vraiment pourquoi il y a un parc ici et pourquoi on fait passer une autoroute à côté d'ici, quoi. Et ça pose des questions. Et enfin, le dernier problème, c'est l'organisation pratique de tout cela, où on met en place des réunions de concertation à 18h le mardi soir, dans lesquelles ne peuvent venir que des populations qui sont disponibles à ce moment-là. En plus, on organise tout ça de manière à ce que tout se passe de manière apaisée. Les espaces de concertation ne sont pas des espaces où vous pouvez venir exprimer de la conflictualité. La conflictualité, ça doit rester à la porte. Il faut être poli, il faut s'exprimer avec des codes de communication qui sont ceux de classe supérieure qui débattent poliment de sujets qui ne les concernent finalement qu'indirectement. Et en gros, toute expression de conflictualité est un peu exclue de ces espaces-là, y compris en recourant à des techniques purement de manipulation. On peut dire que, en tout cas, la ville durable, telle qu'elle se réalise, contribue à dépolitiser la question urbaine, et elle contribue à la dépolitiser d'une manière singulière. Il y a beaucoup de formes de dépolitisation possibles, mais d'une manière qui prétend intégrer des questions politiques à l'intérieur de la production de l'espace. Quand on prétend intégrer la question sociale et la question écologique, on prétend intégrer du politique. Et finalement, en réalité, ce qu'on produit, c'est une reproduction, notamment d'un certain nombre de formes d'inégalité, mais qui ne se font plus au nom d'une logique un peu bourrine, quoi, qui assumerait notamment des antagonismes de classe, mais qui se font au nom de la conformité ou pas aux bonnes pratiques des individus, qu'elles soient les bonnes pratiques écologiques ou qu'elles soient les bonnes pratiques sociales dans le cadre des processus notamment de participation. Ce qui est intéressant dans les espaces de contestation, et notamment aux Lentillères ou dans plein d'autres en fait contestations écologistes qui portent pas forcément centralement sur des écoquartiers.
Les Lentillères, le nom nous a tout de suite plu.
C'est qu'en fait, il y a une contestation d'une écologie capitaliste et en même temps, il y a la proposition d'un certain nombre de choses qui permettent d'envisager des contre-modèles qui, à mon avis, sont beaucoup plus stimulants que ce qu'on peut trouver dans des catalogues de propositions politiques, aussi écologiques puissent-elles avoir l'air dans des programmes électoraux.
Les Lentillères. En 2-3 clics, on découvre que cette zone de 8 hectares, située à quelques kilomètres du centre-ville de Dijon, se définit comme un quartier libre, un espace à défendre face à la bétonisation grandissante de la ville. Souvent présentée comme la seule ZAD urbaine de France, certains médias écolos le définissent comme un lieu de résistance, semeur de joie, quand d'autres, plus critiques, parlent d'une zone de non-droit aux conditions de vie déplorables. Le quartier est né en 2010, des suites de manifestations contre la construction d'une écocité sur l'ancienne ceinture verte de la métropole. Une zone maraîchère qui s'est retrouvée au fur et à mesure de l'étalement urbain, enserrée par le béton. Aujourd'hui, après 16 ans de lutte, le quartier pourrait bien être légalisé par la municipalité. Mais à quel prix ? Sur le chemin, entre la gare et les Lentillères en plein centre-ville, on a tendu le micro aux Dijonnais, les questionnant sur leur lien avec ce lieu.
Les Lentillères, je connais pas très bien, ouais, je vois où c'est, vers la piscine olympique. Ouais. Mais il y a des jardins partagés,
oui,
ouais, j'ai un ami qui a un bout de jardin là-bas, et il m'en a un peu parlé, mais j'en sais pas beaucoup plus.
Ok, okay.
Merci beaucoup.
Ouais, on connaît pas ce quartier, ouais.
Ok.
Bonjour. Je suis peut-être allé une fois et je suis même pas sûr d'avoir vu où c'était. C'est parce que voilà, j'étais dans le quartier et puis que j'ai vraiment vu, je crois, les jardins, c'est ça?
Ouais.
Ouais. Sinon, non, je n'y suis jamais allé. Okay. C'est pas si loin que ça, mais je ne vais pas jusque là-bas.
Ok.
Est-ce que ça ne vous intéresse pas ou...
Non, ouais. Parce que je ne sais même pas ce qui s'y passe.
Ouais.
Ah, vous n'êtes pas du tout au courant de ce qui s'y passe?
Non.
Ouais.
Vous avez à pas part de... si que c'est une zone libre un peu ou d'activité ZAD, c'est ça? Bah, c'est, en... voilà, ou...
Bonjour, monsieur Dami. C'est pas un journaliste, il fait un reportage sur la ville.
Bonjour. Bonjour. Il fait un journaliste. J'ai pas trop le temps, désolé.
Tu veux pas te prendre des recadres un peu là? J'en ai marre.
Moi. Non, là, je te jure, je suis pas en...
Bonjour, messieurs, dames. Je suis journaliste, on fait un reportage sur la ville, mais on cherche juste un petit témoignage ou deux.
Ouais, mais nous, on n'est pas d'ici, nous.
Le quartier des Lantillères?
Ouais.
Ça n'a pas une bonne réputation, quand même.
Moi, je vis juste là les week-ends et le reste, je travaille à Paris, donc...
Ah oui, ok. Vous y êtes jamais allé?
Non.
Ok.
Ah non, 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 non. Ça, on recherche pas la difficulté, je fais pas de jiji dessus.
Là, on rentre dans les petits chemins. Vous avez de la chance de passer aujourd'hui parce qu'il y a 4 jours, c'était impraticable.
C'était avec la partout.
Ah ouais, là, oui.
Franchement, on dirait qu'on a fait exprès. On vient les 2 jours.
Bah, hier, c'était super beau, là. Ouais, ouais, ouais. Non, en plus, la nature se réveille, là. C'est vraiment génial. Je suis Inès. Je suis usager du quartier des Lantillères depuis le début, ou presque. Il y a 16 ans, du coup.
Ah oui, 16 ans. Ah, oui. Déjà. Ok.
On squatte depuis 16 ans, ce terrain, ouais. Sans droit ni titre, et à la base, c'était pour sauver des terres maraîchères de l'accaparement bétonnier, parce que c'était prévu de faire un lotissement ici, un peu comme en face. La phase 2 du quartier, enfin, l'éco-cité des maraîchers, ça s'appelle, ici, là. Ça, c'est la phase 1.
La phase 1, c'est les...
Tout ce qu'on voit là, ouais. Ouais. Il y a encore des constructions.
Oui, c'est ça, parce que là, on voit vraiment la frontière entre, d'un côté, là, du côté où on est, où c'est plein de nature, tout vert, et vraiment à 30 mètres, les lotissements.
Ouais. Tout ça fait partie de la ceinture verte de Dijon. Mmh. Dans les années 60, c'était la campagne, quoi. Il y avait des jardins, il y avait des champs aussi. Et puis, bah, là, ça grignote, comme partout, hein, la ville s'étend. Et maintenant, c'est enserré dans la ville, quoi, avec justement la phase 1 de l'éco-cité, là, qui carrément insère tout. Et là, il y a une scène qui est en construction, là, le bruit que vous entendez en arrière-plan, les gens qui travaillent, c'est une scène couverte qui est en construction là-bas. Donc, il y a des démontages et puis de la construction. Et du coup, bah, nous, on est sur un terrain de BMX anciennement, qui va être réaffecté. Là. Et ce terrain-là, par rapport au reste du quartier, c'est un terrain plus pauvre. Donc, il n'y a pas la même végétation. Okay. Et, c'est beaucoup d'espèces pionnières qui s'installent là. Bah, là, on voit des élantes glutineux. C'est des arbres avec des grandes feuilles qui sont soi-disant invasives. Ces fameuses espèces invasives qui sont décriées un peu partout. Et en fait, de mon point de vue, il y a un caractère utile d'avoir des espèces comme ça. Parce que ça colonise aussi des espaces un peu vierges et ça fait des ombrages pour d'autres espèces. Et si c'est contrôlé et pas éradiqué de façon bête et méchant, si c'est juste contrôlé, bah, en fait, les autres espèces peuvent avoir leur place aussi. Hein. Et la nature est plein d'arbres à papillons, ça s'appelle. Okay. Les petits buissons, vous voyez, avec des fleurs, voilà, plein d'arbres à papillons. Et ça fait pareil, des petits écosystèmes avec du gazon dessous, d'autres plantes qui poussent. On rentre dans les petits jardins, c'est-à-dire que c'est un espace, là, il y a une cinquantaine de petits jardins. En fait, le quartier, il est divisé en zonage. Il y a zone loisirs, zone jardin, zone habitation, et puis zone sous-bois, pelouse, un peu de tout. Là, on est à côté du Foufournil, ça a été construit il y a 5 ans aussi. C'est un bâtiment autoconstruit, du coup, il n'y avait rien. Et du coup, il y a un four à pain dedans. Et il y a également un four extérieur en terre et paille. Voilà, traditionnel. Donc là, il y a quelques maisons. Mais c'est surtout là, c'est un zonage cabane de jardin avec des jardins individuels ou collectifs. Ah oui. Là, il y a un camarade qui fait sa petite cabane. Donc il y a tout un système de recyclage aussi des matériaux. C'est-à-dire qu'au maximum, on essaye de retrouver, de pas acheter les matériaux, d'essayer de s'organiser pour trouver des matériaux avec des connaissances ou aller dans des boutiques où ils filent des palettes, des trucs comme ça.
Bonjour.
Ça va? En forme? Ouais. Ça va les oiseaux? Ils t'ont pas fait la misère là? C'était dès le matin, ça caquette. Hein. On passe une bonne journée. Salut. Là, on passe à côté des zones d'habitation avec un toit végétalisé, Voilà.
Et puis à côté, j'ai vu, il y avait une yourte aussi.
Il y avait une yourte aussi. Il y a une roulotte. Il y a des maisons qui étaient là avant qu'on arrive, donc plutôt en dur. Et puis nous, on a construit des habitations en structure légère. Ouais. Voilà. Là, il y a également une maison qui est en construction. Enfin, une maison. Une habitation avec sur roue. Donc avec un, c'est des châssis agricoles qu'on récupère gratuitement, les mecs ils nous filent.
Il y a une chose qui est fondamentale quand même aussi, qui est la réflexion autour de la construction. Et principalement autour de la non-construction. Aujourd'hui, une des problématiques de la ville durable, c'est qu'on fait des projets, je l'ai dit, qui sont de meilleure qualité, mais on continue de construire toujours davantage. Les élus ont besoin de construire davantage, ils ont besoin de montrer qu'ils provoquent du développement, etc., qu'il y a de la croissance. Alors, en ville, on parle d'attractivité territoriale, ça veut dire à peu près la même chose, quoi. Il faut qu'on montre qu'on est capable d'attirer des investisseurs, qu'on est capable d'attirer des populations, etc. Mais globalement, on a des politiques qui sont quand même centrées là-dessus. Alors que ce n'est pas très rentable, politiquement, de dire on ne va pas construire. Alors qu'écologiquement, des fois, ne pas construire, c'est un enjeu. Et là, les luttes, elles produisent des choses intéressantes parce qu'elles vont défendre précisément souvent le fait de ne pas construire ou de limiter la construction. Des fois, on va construire. Il y a plein de choses qui sont construites. Le quartier des Lentillères, ce n'est pas un espace immobile où des ruines auraient été vaguement entretenues. C'est quelque chose où il y a eu de la construction. Il y a des choses qui sont nées là-bas. Mais du coup, toute cette question précédemment évoquée de comment on s'organise, qui est légitime pour le faire et la question de la propriété, à la fin, elle permet de discuter de cette question fondamentale qui est quand même, doit-on ou non construire et qui décide de quoi et comment on construit.
Là, c'est le collectif Touareg, en fait. C'est des Touaregs qui sont là. Il y a plusieurs collectifs. Là, le collectif d'à côté, c'est des gens d'Afrique subsaharienne. Puis voilà, il y a un deuxième collectif Touareg dans l'autre côté du quartier.
Okay.
Et sur Dijon, la communauté Touareg, elle est importante sur les Lentillères. Lui, il fait des très beaux bijoux, Touareg. Là, c'est un des collectifs, ça s'appelle les Ronces, ici.
Mais là, du coup, tu nous disais que c'était un des collectifs, parce qu'il y a plusieurs collectifs,
ouais,
en fait,
qui sont sur... Oui, il y a 13 collectifs d'habitation. Quand je te disais, il y avait une centaine d'habitants, voilà.
Chacun des 13 collectifs d'habitation s'auto-organise. En général, ils se regroupent autour d'un petit îlot de construction, avec au centre une maison centrale et partagée, et les habitations individuelles autour. En plus des collectifs d'habitation, il y a aussi des collectifs d'activités, de maraîchage, par exemple, ou alors de la cantine solidaire. Ces collectifs-là brassent en dehors des frontières du quartier et peuvent s'y investir des voisins, des Dijonais ou même des visiteurs de passage pour quelques temps.
On loge aussi des gens qui sont en situation irrégulière, il faut le savoir. Ils sont là et qu'on aide à remplir leurs papiers pour se légaliser ou retrouver leur titre chez eux. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Donc, il y a des réunions de quartier tous les troisièmes jeudis du mois. Donc, du coup, là, c'est décidé des choses importantes, par exemple, sur des lieux communs. Mais par contre, un collectif qui a ça autour de chez lui, il va se gérer, il gère tout seul, quoi. Il va pas demander en AG, est-ce que je peux construire, est-ce que je peux améliorer mon habitat. Et des grands trucs communs pour la maison commune qui est quasiment finie, qu'on va aller voir là, 100 mètres carrés au sol sur deux étages. Là, c'est par exemple, c'est un projet qui a été décidé en AG. Ici, c'était une ancienne ferme. Salut.
Salut.
Et du coup, c'était la ferme des Koenig. C'est une des dernières fermes de Dijon. En fait, ils avaient été expropriés dans le projet immobilier, tout ça. Et en fait, quand on a repris le terrain et qu'on l'a occupé, et petit à petit la maison aussi, parce qu'on est parti du rond-point là-bas et en avançant jusqu'à où on était, là, au BMX, ils étaient trop contents, quoi. Ils disaient, des petits jeunes qui reprennent la maison, qui veulent faire du jardin, tout ça, trop bien. Du coup, ils ont aidé les gens qui se sont mis là. Au départ, il y avait juste un terrain, un jardin, je vais vous montrer, le pot de colle, le potager collectif qui avait été défriché. Et après, petit à petit, les gens... sont arrivés soit avec des caravanes, soit ils ont investi des maisons pour faire un QG, par exemple, pour stocker le matériel au début.
Ouais.
Et après, y habiter, parce que c'était un endroit où ils voulaient défendre. Donc, quand tu habites aussi, tu défends plus facilement un lieu que, de mon point de vue, après, tu peux venir juste comme ça.
Et en termes d'évolution du nombre de personnes, tu t'as vu une évolution? Vous êtes de plus en plus nombreux, ou il y en a qui partent,
non. Puis il y a une densité qui est pas, on peut pas être plus, on va pas pouvoir grossir indéfiniment. Donc c'est pas de refaire ce que fait la ville.
Aujourd'hui, donc 99% du monde, le foncier, il dit que décide la personne qui est propriétaire du territoire, ou si elle n'en est pas propriétaire, la personne qui l'a en gestion pour le propriétaire, la personne ou l'entité, l'institution. Et face à ça, les luttes, elles opposent la question de l'appropriation, c'est-à-dire le fait que les personnes qui vont pouvoir décider ce qui se passe, ce sont les personnes qui s'approprient le territoire, et non pas par des droits fixés légalement, mais parce qu'elles en prennent soin, parce qu'elles y vivent, parce qu'elles en ont l'usage. Et donc, en fait, cette réflexion qui prend la question de la propriété à l'envers par rapport au droit propriétaire en lui proposant plutôt de dire, en fait, les personnes qui décident, ce sont celles qui utilisent les terres et qui en prennent soin, elle est révolutionnaire.
L'idée aussi, pourquoi ça ne va pas grossir à l'infini, c'est que aussi les gens qui sont ici vivent ensemble. Donc en fait, tu ne dis pas, tiens, moi j'aimerais bien venir au Lantir et m'installer. Bah, en fait, non. Tu viens au Lantir, tu habites. Habiter, ce n'est pas forcément avoir un logement. Habiter, c'est être actif, c'est avoir des liens avec les gens. Des liens de confiance, des liens d'amitié ou des liens de travail aussi, mais de vivre comme ça. Et ça prend du temps et ça se fait pas. Et tu dis pas, tiens, bah, c'est bon, j'ai un terrain, je me construis, tout va bien. Bah, en fait, non, tu peux pas vivre. Enfin, si, tu peux vivre tout seul, mais en fait, dans le quartier, on vit pas tout seul, on est commun. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se font en commun, on se connaît et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Ce qui fait aussi la force du quartier, pourquoi ça existe depuis si longtemps, en fait. Tu vois?
Je ne sais pas si vous entendez le bruit de fond derrière la discussion entre Ness et Silouane. C'est Anne-Marie et moi qui discutons un peu plus loin. Anne-Marie habite les environs depuis longtemps, mais ça ne fait que quelques mois qu'elle a commencé à fréquenter les Lantillères.
Bon, j'habite le quartier, donc souvent en me promenant, j'avais découvert ces petits jardins partagés hein, qu'on voit comme ça en bordure de route, hein, quand on se balade. Je ne m'étais jamais aventurée parce que bon, j'avais un petit peu peur. En étant une femme, bon, on est un petit peu sur nos gardes. Hein, donc, je n'ai jamais osé en fait, rentrer dans la structure. Et j'ai découvert ça en fait, l'année dernière. J'ai prêté assistance à un Somalien qui a débarqué chez moi un matin parce qu'il avait des problèmes de santé. Il n'arrivait plus à avaler. Il n'avait pas de médecin. Il était sans abri. Et du coup, j'ai essayé de le secourir autant que possible hein, en l'emmenant chez mon médecin, etc. Et puis donc ce petit jeune avait l'habitude de venir ici manger. Donc du coup, il m'a fait visiter. Donc j'étais rassurée parce que voilà, j'étais accompagnée. Hein. Et puis je me suis baladée en fait dans les jardins. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de monde en train de jardiner, en train de cueillir les... C'était l'époque du mois de juin, hein, donc ramasser les mirabelles, etc. Et j'ai commencé à papoter avec les jardiniers pour connaître un peu l'organisation et tout. Et ça m'a donné l'idée de demander... à l'un des responsables donc, des jardins d'avoir un petit lopin de terre.
Sur la centaine de petits jardins, 90% c'est des gens extérieurs.
Ok.
Ouais. Qui se sont dit, en fait c'est pas mal là. Puis on a une structure d'organisation où on prête des outils, des semences, on fait une foire aux semences. Et même des plants, quand il y a trop de plants au JDM, ils enfilent aux gens.
Ok.
Voilà.
Le JDM, puis, déjà, tu peux me rappeler ce que c'est?
Jardin des maraîchages, c'est un des deux collectifs de maraîchage. Okay. Et ces légumes sont destinés aux gens du quartier et également au marché, parce qu'il y a un marché de juin à septembre, tous les jeudis. On a une philosophie non marchande, donc tout est à prix libre dans le quartier. Le seul truc qui est à prix fixe, c'est les bières pendant la fête. Voilà, mais ce qui fait rentrer aussi de l'argent dans les caisses, il faut savoir. Et là, il y a un endroit où il y a un grand trampoline pour les gamins. Ils donnent le mot d'ordre, viens, je te montre où ça est. Ah ouais. Du coup, ils entendent, t'entends les gamins, c'est par là-bas là. Donc, ceux du quartier viennent faire du trampoline ici, là, dans le sous-bois là-bas.
Ils sont autour. En fait, c'est tout le temps ouvert. Enfin, quand ils veulent, ils peuvent rentrer n'importe quand.
Oui, il y a des gens qui m'ont dit, mais ça ferme à quelle heure, monsieur, là? Parce que. Vous avez vu des portails? C'est comme si c'était un parc public. T'sais. Puis ils m'ont dit, vous travaillez pour la ville? Non. Vous êtes payé? Non. Qu'est-ce qu'il fait là? c'est pour vous le truc? Non. C'est pour les gens du quartier. Ah ouais. Je comprends pas. Ouais. Les gens, ils bossent pas que pour eux. Et gratuitement en plus. Donc n'importe quoi, lui. On continue si vous voulez les visites.
Ouais.
Là, on a un petit bois, là, juste derrière les serres du JDM, tu vois.
Ah ouais.
Donc là, il y a un apiculteur qui est là depuis le début aussi, qui est dans les buissons. Puis je me dis, mais attends, c'est pas possible. Il n'y a pas de miel, là. Il ne fait pas de miel, lui. En fait, son truc, c'est pas faire du miel, en fait. C'est d'avoir des abeilles.
Ah ouais.
Donc, des fois, il a un pot, mais il le garde pour lui, mais c'est tout ce qu'il a, quoi. Tu te dis, waouh. En fait, c'est une philosophie. Hein. Tu aides les abeilles à s'installer, puis en fait, elles pollinisent tout ce qu'il y a autour, donc c'est bien.
Là, tu as des vêtements, je vois, dans la cabane.
Oui, c'est un free shop.
Okay.
Snack free shop. Il y a des vêtements, il y a du... des chaussures, des trucs comme ça, un peu des... okay. C'est un échange, quoi. Les gens ramènent et ils donnent, voilà. Maintenant, on a une maison commune qui fait 100 mètres carrés au sol et qui est finie de construire il n'y a pas longtemps. Ça fait 3 ans qu'elle est qu'elle en construction. Et ça nous sert pour les concerts, pour les fêtes. On a fait un marché d'hiver il y a 2 semaines, là, avec des légumes et tout ça. Bah voilà, une construction pour la durée. Parce que même à l'époque, on ne savait pas si on n'allait pas rester, parce que la mairie, on est actuellement en discussion avec la mairie pour se légaliser, plus ou moins. Et ça a l'air d'avancer dans ce sens. Moi, je ne suis pas forcément pour, mais on suit le mouvement parce que c'est aussi le fait de discuter ensemble et de... Voilà, c'est des hauts consensus, donc on verra. Voilà, on est revenu au point de départ.
Et c'est demain la cantine, du coup.
Demain midi avec Mariam, mais ouais.
Et voilà. Nous, on va aider à faire à manger.
Bah ouais.
On va être là.
On va regarder déjà, là. S'il y a un truc à faire.
Je m'appelle Mariam, je suis là depuis 2019, volontaire. C'est moi qui fais la cuisine de vendredi. Je cuisine des pâtes, des crêpes, des masses. On fait du prix libre. Même si tu n'as pas l'argent, tu prends ton assiette, tu vends. On te serve, tu manges.
Ouais, c'est ouvert à tous et c'est pour tout le monde, quoi. C'est quoi pour toi les lentières un peu
C'est bien, on est là, solidaire. Voilà.
Et tu vis dans les lentières ou à l'extérieur?
Je suis quittée ici en 2022, le fin 2023, okay. Je peux dire. Sinon, je vivais ici.
Pourquoi tu continues à venir aider ici?
Parce que quand je suis galérée ici, je n'ai pas où je dormir. C'est ici comme hébergé que je dors. Ouais, même maintenant, j'ai mon appartement. Je ne peux pas laisser ici. Ouais, je viens toujours avec les gens du quartier. Mm-hmm. Si ce n'est pas l'embêtement de la mairie, on est tranquille.
Il y a différentes raisons d'arriver aux lentilles. Il n'y en a pas qu'une. Enfin, ce n'est pas vraiment un lieu qui est uniquement militant ou uniquement de jardin ou uniquement de solidarité ou quoi. Enfin, c'est un lieu qui mélange beaucoup de choses.
Lou, résidente du quartier libre des Lentières depuis 7 ans.
Ça fait que c'est facile de débarquer là parce qu'il y a des transports tout simplement, parce qu'on est dans un endroit, voilà, dans un pôle, il y a de l'activité, quoi. Donc ça fait que des gens qui vont aussi chercher juste un logement, ils vont parfois débarquer aux Lentières sans autre raison que de chercher un toit, quoi. Et puis plein d'autres vont rejoindre la lutte anticapitaliste, pour la défense des terres, pour tout ce qui nous réunit ici. Ça peut être une raison suffisante d'arriver là aussi. Et donc voilà, on va dire que la moitié des habitants sont des personnes qui n'ont pas vraiment le choix et qui sont là par nécessité et parce qu'il faut trouver un endroit pour dormir, quoi.
Salut Rokia. Ça va quoi?
Bien.
Tu rentres de l'école? Tu vas être interviewée?
Bonjour, je m'appelle Rokia, je suis en CM2, je suis un enfant de 11 ans, j'habite aux Lentières, c'est un Eldorado de vie, parce qu'on fabrique des choses nous-mêmes, il y a la cantine, mercredi, c'est très très bien.
Ok.
C'est un quartier merveilleux. Je vous conseille d'habiter aux Lentières. C'est la voix de Rokia qui vous dit.
Et ça fait longtemps, toi, que tu habites ici?
À peu près 6 mois.
OK.
Il y a le parc ici à côté, il y a l'école à côté. En fait, on a même un cinéma à côté, on a à peu près tout à côté. Ici, c'est bien, on partage les choses ensemble, on parle ensemble.
Et il y a beaucoup d'enfants qui habitent ici?
Quelques-uns, pas énormément, quelques-uns.
OK. Mais ça va, les adultes, ils sont sympas quand même.
Ils sont sympas. La vérité, ils sont sympas. J'aime bien ici car on partage tout ensemble. Ici, c'est plus pratique de genre, si tu as envie de faire quelque chose, construire quelque chose, tu peux le faire. Mmh. Voilà. Personne ne va dire pourquoi tu as fait ça. Il n'y a pas de chef ici, quoi. Mmh. On est tous égalité ici. C'est un Eldorado, comme j'ai dit.
Et toi, tu as déjà construit des choses ici?
Non, mais... bientôt, je veux faire un film aux Lentières. Mon rêve, c'est d'être actrice ou
artiste.
Artiste.
Ouais.
Bah c'est bien, tu vas pouvoir commencer ta carrière avec le film.
C'est ça, ça sera mon premier. Et les gens qui veulent que je sorte dans leur film comme enfant, actrice, je suis là. Je suis présente.
Et ben on fera passer le message. Rokia, prochaine star du cinéma.
Et du coup, toi, les Lantières, t'aimerais y rester pour y vivre
Bon, mes parents, ça dépend mes parents. Mes parents, eux, ils veulent chercher un appartement.
Si vous partez des Lantières, toi, t'aimerais revenir de toute façon toujours.
Il y a des amis, il y a des gens qu'on s'entend bien. Mm. Je ne vais pas oublier le Lantières.
Trop chouette.
Okay. Moi, je vous dis au revoir.
Au revoir. Au revoir. Salut, bon appétit. Hein.
Merci à vous.
Allez,
aussi.
À toutes. Donc, on a un ami qui est très fort en cartographie. Du coup, il nous a fait cette carte, qui est une carte des Lantières avec toutes les parcelles. La décision, la décision en fait, de la séparation entre une bande à l'est et tout le reste, c'était en juin 2023. Donc on a une carte des Lantières avec les propriétaires. Donc en fait, c'est divisé en deux principalement. Il y a la grande parcelle de 7 hectares qui maintenant appartient tout à la ville de Dijon. Avant, c'était découpé en plein de parcelles différentes, plein de propriétaires différents, mais ça a été préempté. Puis il y a eu une déclaration d'utilité publique qui a fait qu'ils ont exproprié les derniers propriétaires. Et là, la mairie a racheté la grande partie du terrain, donc 7 hectares, au prix de 4 millions d'euros, environ 60 euros le mètre carré.
Parce qu'avant, en fait, quand tu as commencé l'occupation, ça appartenait pas à la mairie.
Non, ça appartenait à tout. Toi, chaque parcelle était à un propriétaire différent. Et donc là, voilà, là on voit juste une séparation nette entre 7 hectares d'un côté et puis la bande est, comme ils appellent, qui appartient à la société d'aménagement, donc pour en vue de construire dessus, donc en vue de vendre à des promoteurs. Et on voit une grosse différence de prix. Et on se demande si c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas racheté cette partie-là. C'est que en moyenne, la bande est, elle vaut 259 euros le mètre carré, alors que tout le reste, en moyenne, c'est 60 euros le mètre carré. Donc ça s'explique par plusieurs choses, notamment que c'est deux tiers de cette bande est avait déjà été construit auparavant. Donc c'est déjà viabilisé. Le prix du mètre carré, c'est le prix du bâti, d'un terrain à bâtir, quoi. Donc c'est bien plus qu'un terrain agricole. Mais sur cette bande est, il y a un tiers, même plus, puisqu'il y a un jardin là, il y a un jardin là, il y a un gros tiers de terrain cultivable et agricole. Et donc ça contredit ce que dit la mairie, parce que la mairie, elle dit, là, c'est une bande, c'est un tas de cailloux, c'était déjà construit, on va juste construire dessus, et ça change rien, quoi. En fait, c'est faux, quoi. Il y a vraiment des parcelles de jardins, y compris dans la parcelle la plus chère, parce que c'est les jardins des maisons existantes. Eux, leur volonté de construire sur cette bande-là, déjà, c'est symbolique. C'est pour pouvoir dire qu'ils ont gagné sur les Lantières, qu'ils ont pas totalement lâché. Ils ont gardé une partie, et en plus, c'est en phase de ce qui existe aujourd'hui, comme dans leur écocité, la première phase de l'écocité, qui est déjà construite et en construction. Elle serait en phase de cette bande-là, donc ça ferait une sorte de grande allée bétonnée qui serait plus logique dans leur système. Et en fait, aussi, ça nous couperait du reste du quartier. Et bon, symboliquement, ils auraient mis un pied sur les Lantières. C'est pas encore fait, hein. Et puis c'est surtout des terrains qui valent les plus chers, donc c'est plus dur à racheter, c'est sûr.
La question de la légalisation et de l'abandon potentiel de la côte Est est loin de faire l'unanimité au sein des Lantillères. Lou, comme Ness, qui font partie du collectif de la Chouchou, le collectif qui s'occupe des cantines solidaires et qui se trouve justement sur cette côte Est, s'oppose fermement à la légalisation. Pour autant, nombreux sont les usagers des Lantières à avoir une autre position. C'est par exemple le cas de Françoise. Elle n'habite pas le quartier, mais fait partie des premiers à avoir investi le lieu il y a 16 ans. On la croisait en train de travailler son bout de jardin.
Et vous êtes maraîchère ?
Oh, c'est un grand mot, beaucoup trop grand.
Vous voyez de quel œil la légalisation ?
Ah ben moi, je trouve que c'est d'ailleurs la seule solution pour que ça, qu'il y ait une pérennisation. Donc, je suis effectivement pour. Il n'y a pas d'autre. Pour moi, je vois pas vraiment. Je trouve une grande naïveté de penser que on peut continuer à être ici sans légalisation. Et c'est même pour moi cracher dans la soupe. Qu'est-ce qu'on risque ? pas grand-chose d'être légalisé. Mmh. Bien évidemment, ça change pour certains des choses, quoi, les loyers, etc. Il y a un collectif qui résiste, mais moi, je trouve que c'est du suicide. Mais c'est mes copains, quand même. Mais on n'est quand même pas dans une municipalité qui verrouille tout, d'une part, et qui a l'intelligence, quand même, de faire marche arrière. C'est de l'intelligence, mais être d'accord avec tout, sûrement pas. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Si ça ne marche pas, ben, chacun prend ses billes. Hein. Et je trouve qu'il vaut mieux faire l'erreur de faire ça, des déceptions, c'est évident qu'il va y en avoir, mais je ne sais plus, il y a une chanson de Brel, je ne sais plus.
Ou de Brassens.
Oui.
Mourir pour ses idées. Mais voilà, c'est Brassens,
c'est ça, là. Ouais. Je n'étais plus dedans.
Allez, très bien.
Je n'étais plus dedans, et en même temps, si je devais me souvenir tout de suite du contenu de la chanson, je crois que j'aurais des trous.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Être en squat, risquer d'être expulsé tous les jours, c'est très compliqué, c'est très dur à vivre. Et donc parfois, obtenir la légalisation d'un espace occupé, qu'il s'agisse d'un ou deux bâtiments dans le cadre d'un squat ou d'un quartier entier comme les Lentillères, en fait, ça offre de la sécurité immédiate aux personnes, et potentiellement, ça peut être aussi sécuriser un peu des espaces d'organisation politique qui sont quand même pas extrêmement nombreux, on va dire, dans le mouvement social émancipateur. Je m'exprime avec une légitimité scientifique. Je pourrais donner un avis politique, mais même mon avis politique, il n'aurait pas grande valeur dans l'absolu. C'est à nouveau les personnes concernées, et je vois bien le sujet qu'il y a à Dijon et ce qu'il peut avoir d'extrêmement difficile, c'est-à-dire à quel moment la concession devient une défaite et à quel moment une partie de cette concession devient quand même une victoire politique dans ce qu'elle permet de sécuriser. Et cette question, elle se rejoue de manière assez systématique sur le conventionnement des squats aux Lentillères, potentiellement demain dans d'autres endroits qui sont dans des conflictualités, qui aimeraient bien potentiellement arriver à ce stade et arriver à ces questionnements-là qui sont quand même le fruit de décennies de lutte. D'une certaine manière, le fait d'avoir à se poser cette question-là est déjà une sorte de petite victoire, même si une victoire un peu foireuse.
On est à peut-être quelques mois de la signature d'un contrat de légalisation des 7 hectares qui appartiennent à la mairie. Est-ce que ça veut dire que les Lentillères vont rester les Lentillères? Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Je pense que, en fait, si la mairie nous propose ça, ce contrat qui, a priori, ne changerait pas énormément la gestion du lieu, c'est que ça leur sert à quelque chose. Et pour moi, c'est hyper dangereux que la mairie récupère en fait, cette lutte et tout ce qu'on a fait pendant 15 ans de création d'un endroit unique et qui soit une résistance en fait, à la politique d'urbanisation, mais pas que, de capitaliste, etc., de la ville. Ben, en fait, si on est accepté par la mairie, pour moi, hein, ça c'est un avis personnel, je pense que c'est un échec.
Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a soustrait, on a réussi à négocier le fait de soustraire une partie de l'espace à sa gestion habituelle, et qu'est-ce que sont prêts à tolérer des pouvoirs publics qui, par ailleurs, vous ont combattu de la plus violente des manières? C'est une quinzaine d'années, je pense, c'est les Lentillères maintenant. On ne peut pas dire que les élus de Dijon soient particulièrement reconnus pour être les élus les plus progressistes de France, mais on a aussi l'État quoi, derrière, et la préfecture, qui ne voit pas forcément d'un très bon œil le fait que des espaces puissent échapper, d'une manière ou d'une autre, à la puissance publique, du fait qu'en plus ces espaces soient considérés comme des espaces subversifs du point de vue politique, parce qu'ils sont occupés par des personnes identifiées comme étant venant de l'autonomie, venant de certaines formes anarchistes, venant de certaines formes d'extrême gauche, et par ailleurs, qui en plus sont des espaces dans lesquels vivent des populations que l'État aimerait sortir de son territoire, donc en fait des populations migrantes avec ou sans papier.
Même si en fait ça se transforme en un lieu tout à fait sympathique, avec des jardins, avec un côté pédagogique, un côté culturel, bon, ça peut devenir un tiers-lieu, mais pour moi ça aura perdu son âme. Donc il y a quelque chose, il y a un risque pour moi à aller dans cette proposition que la mairie nous fait. Surtout que, principalement, le premier risque, bah, c'est de perdre un huitième du terrain. Un huitième qui est très actif aujourd'hui, où il y a plein de gens super motivés qui sont actifs là, que ce soit des habitants ou des gens de l'extérieur. C'est une porte d'entrée depuis tout le reste de la ville. Donc en fait, perdre cette bande-là, pour moi, c'est pas juste céder une petite partie pour gagner le reste. Pour moi, c'est un gros échec. Mais donc voilà, c'est pas encore signé, et on est toujours en résistance, et pour moi, ce qui compte, c'est que le lieu, il reste le plus longtemps hors système.
En fait, il y a une inquiétude légitime quand on a des ambitions émancipatrices et révolutionnaires, qui est de se dire, mais en fait, comment je me protège contre la possibilité de devenir, quelque part, un espace exotique ? Et l'exemple du quartier de Christiana à Copenhague, qui est devenu un espèce de supermarché touristique, alors que ça a été un espace qui, quand même, effectivement, a été intéressant, en tout cas dans sa démarche, il y a plusieurs décennies, quand il a été soustrait à l'organisation habituelle de l'espace, etc., pose question.
Justement, il y a quelques semaines, j'étais en vacances là-bas, à Copenhague, avec mon copain. Avant de partir, Silouane m'avait conseillé de passer à Christiania, une ancienne ZAD au milieu de la ville. Christiania, c'est le grand fantasme des années 70. En 1971, Copenhague est en pleine crise du logement et une bande de jeunes décide d'investir une ancienne base militaire abandonnée par l'État et surtout de rester y vivre. On est en pleine période hippie et leur objectif est de créer une société autogérée. Ils veulent l'autonomie économique et surtout s'épargner ce qu'ils appellent la misère psychique et psychologique de la société. Pendant un temps, le projet ressemble à une utopie concrète. On cultive des potagers, on pratique le troc, on bâtit sa propre maison. Le projet prend de l'ampleur et très vite, ils sont 500 à vivre sur place.
C'est quelque chose de peu commun. Genre, t'as vraiment l'impression qu'il y a un mélange entre deux types de populations, genre les touristes et les locaux, et c'est vraiment marqué, j'ai l'impression. C'est un peu spécial. J'ai l'impression d'entrer dans... Tu sais, de visiter la maison de quelqu'un d'autre, genre. Ça fait un peu... Ça met trop à l'aise, ce truc de... Genre, t'as des gens qui ont choisi un mode de vie et toi, tu regardes ça comme si t'es au zoo, genre.
Cette sensation, elle nous tombe dessus dès l'entrée. À gauche, un resto de burgers vegan, à droite, un café qui déborde de babioles pour touristes. On a marché 2 heures et ce sentiment de voyeurisme ne nous a pas lâchés. À chaque détour, on croise des gens assis sur le pas de leur porte. On a bien essayé de discuter, de comprendre ce qu'il reste de l'esprit d'origine, mais les visages se ferment. Et dès que je sors l'enregistreur, c'est le rideau de fer. Ici, les panneaux sont partout. Pas de photos, pas de vidéos, pas de téléphone. On protège son intimité comme on peut quand on vit dans un décor que le monde entier vient scruter. C'est là que le côté absurde frappe. On déambule entre des maisons un peu délabrées et des friperies qui vendent des vestes vintage à 200 euros, le tout sur fond de musique commerciale. Le malaise, il vient de cette ambivalence. Certains habitants vivent clairement du tourisme de la ZAD, alors que d'autres ont l'air profondément énervés par les touristes. Et en même temps, on vient sûrement tous ici pour observer un projet qui n'a pas vraiment marché. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1975, les libéraux prennent le pouvoir au Danemark et veulent reprendre le contrôle du quartier. Les habitants sont accusés d'être des opportunistes et de profiter de logements bon marché. Mais la majorité de la gauche européenne va soutenir le projet. Alors plutôt que de supprimer Christiania, les autorités changent de stratégie et passent par la légalisation en reconnaissant l'existence de la communauté et en lui accordant un statut particulier. Ce nouveau statut soumet le lieu aux normes d'urbanisme national. Les habitants doivent payer une redevance pour l'eau et l'électricité et demander un permis pour construire de nouveaux logements. Cette normalisation progressive va limiter l'idéal d'autonomie qui était pourtant au cœur du projet. Et puis il y a eu la question de la drogue, qui a été centrale. Parfois utilisée pour justifier la suppression du lieu, parfois devenue un vrai problème pour les habitants eux-mêmes, contraints de collaborer avec la police pour faire partir les dealers.
En 2011, pour éviter l'expulsion, ils ont dû lancer les actions du peuple pour acheter les terres à l'État. Et l'ironie est forte, on a même vu le ministre de la Croissance offrir une action à sa successeur comme cadeau de passation. Cette normalisation a aussi ouvert les vannes au tourisme. Christiania est devenue la troisième attraction la plus visitée de la ville, où on peut repartir avec sa veste vintage, son magnète ou encore sa carte postale. Et ce qui était une expérience alternative est devenu en partie un décor observé, consommé, photographié.
Une des caractéristiques du capitalisme, c'est d'être capable de se renforcer en ingérant les critiques qui lui sont faites. Et ça, on le voit avec la question du développement durable, qui est une ingestion de la critique écologiste et sociale dans la norme de la production capitaliste quotidienne. Moi, je vis à Lyon, on a une tradition de peinture murale dans les pentes de la Croix-Rousse, donc un quartier qui a été en grande partie gentrifié, qui fait qu'aujourd'hui, on a des visites touristiques de gens qui vont voir des tags, quoi. On laisse n'importe quel tag, sauf les tags politiques, qui sont jugés injurieux. Donc, ce qui est quand même complètement à rebours de toute l'histoire de ces graffitis-là. Et donc, forcément, il y a une crainte quand on vous ouvre la porte en vous disant globalement, on va vous accepter comme vous êtes, que potentiellement, demain, vous puissiez vous transformer en espèce d'artefact un peu muséifié d'une lutte qui n'est plus que quelque chose de mort. Et en même temps, je pense que si on est freiné par ça, en fait, on ne fait plus grand-chose et que quand même, réalistement, tout n'est pas transformable en artefact touristique. Il me semble notamment la critique du productivisme et la critique de la logique de marché, c'est une critique que le capitalisme a beaucoup de mal à ingérer. C'est plus facile d'ingérer de l'écologie et de produire des voitures électriques et des bâtiments bien isolés, ça reste. Mais la critique du productivisme, c'est très 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 compliqué. Donc il y a quand même des garanties là-dedans, mais je comprends la crainte.
Si jamais ça se légalise, comment est-ce qu'ils vont intégrer notre lieu à leur politique et à leur communication? Est-ce que ça va devenir un parc municipal dont ils vont se vanter dans leur plaquette? Il y a des gens qui s'en foutent, mais moi personnellement, je crois que ça serait terrible parce que je veux vraiment pas servir de faire valoir à une mairie qui participe à cette société de merde contre laquelle on se bat quoi, au quotidien. Et donc, moi, ça me ferait vraiment mal qu'ils puissent se servir de nous. On reste jusqu'à aujourd'hui des pirates, que ce soit dans l'âme ou dans les actions, et que ce soit les gens qui traversent la mer pour trouver une meilleure vie, ou que ce soit les gens qui essaient de créer des mini-sociétés autogérées qui disent merde au capitalisme, à la civilisation, et qui essaient d'inventer autre chose et de créer une résistance dans les brèches, quoi. Et voilà, on essaie que ce soit par nos activités et la porosité qu'il peut y avoir aussi de donner envie à d'autres de rentrer dans la piraterie. Et de pouvoir inventer nos vies autrement que comme on nous l'impose.
Les Nouveaux Sauvages est un podcast produit tous les deux mois par Radio Campus Paris. Vous pouvez l'écouter sur son site radiocampusparis.org ou vos plateformes d'écoute préférées. Suivez-nous sur Instagram @nouveausauvagespodcast tout attaché, commentez, partagez et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles pour nous soutenir. À très vite.